France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Ce devait être acté en Conseil des ministres ce matin. La mesure est finalement remise à une concertation de 6 mois. Le travail de nuit ne sera pas modifié pour l'instant par le gouvernement. Il envisageait de permettre aux commerces alimentaires de rester ouverts jusqu'à minuit sans avoir recours au travail de nuit, à condition de ne pas ouvrir avant 7 heures le lendemain matin. Les syndicats s'y opposent. La mesure est donc repoussée à l'été prochain au plus tôt. Les sénateurs bloquent le débat sur le budget à la sécurité sociale. Ils ont voté hier soir une motion de renvoi du texte en commission, un texte qu'ils jugent obsolète et insincère. Ils reprochent en fait à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de les tenir à l'écart des nouvelles mesures en faveur de l'hôpital. Elle devrait être annoncée ce mois-ci. Une grève à l'hôpital, par ailleurs, est annoncée pour demain. Le ministère de l'Enseignement supérieur condamne les violences et les dégradations qui ont eu lieu en marge des manifestations étudiantes hier en France. À travers une quarantaine de rassemblements, elles ont dénoncé la précarité étudiante. Hommage également hier à un étudiant lyonnais qui s'est immolé par le feu vendredi dernier pour dénoncer notamment la suppression de sa bourse d'études. À Paris, les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur ont été forcées. À Lyon, une université a été taguée. Et à Lille, une conférence de l'ancien président François Hollande empêchée. La promotion du dernier film de Roman Polanski, J'accuse, est à l'arrêt en France. Une avant-première parisienne a été annulée hier après l'intervention d'une quarantaine de militantes féministes, alors que le réalisateur est visé par une nouvelle affaire de viol. Une photographe française l'accuse de l'avoir violée en 1975 alors qu'elle avait 18 ans. Un témoignage qui vient s'ajouter à de nombreuses autres allégations, dont 3 accusations de viol. L'enquête pour enclencher une procédure de destitution contre Donald Trump deviendra publique aujourd'hui aux États-Unis. Les auditions filmées vont en effet débuter devant la Chambre des représentants. Les États-Unis qui conseillent par ailleurs aux citoyens américains de ne plus voyager en Bolivie pour cause de troubles civils. 7 personnes sont mortes, dont 4 tuées par balle dans les violences post-électorales ces dernières semaines. Violences qui ont entraîné en début de semaine la démission du président Evo Morales. Violences et contestations populaires. Populaire surtout. Nous irons à La Paz lors du journal de 6h30.
Informer, témoigner, décrypter. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
4 ans après les attentats des terrasses parisiennes, nous recevons celui qui était alors ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour évoquer avec lui le pouvoir, les responsabilités qu'il fait naître et la façon dont il a vécu cette période. Alors retrouvez-le dans les matins ce mercredi.
Les matins de France Culture, ce mercredi dès 7h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio tôt le matin ou en ligne quand vous voulez, l'actualité de la culture tous les jours de la semaine et chaque mercredi, c'est l'actu ciné. Aujourd'hui, mercredi 13 novembre, sort le dernier et très attendu film de Roman Polanski, J'accuse, sur l'affaire Dreyfus. Film attendu pour son sujet historique, c'est l'accusation d'un innocent sur fond d'antisémitisme virulent sous la Troisième République. Film attendu aussi parce qu'il a été unanimement salué lors de sa première projection publique à la Mostra de Venise, où il a obtenu le Lion d'Argent ainsi que le prix de la FEPRICI, la Fédération des critiques du cinéma du monde entier. J'accuse est aussi attendu parce que son auteur, grand parmi les grands cinéastes, aujourd'hui âgé de 86 ans, est une nouvelle fois de plus accusé de viol. De nouvelles accusations ont été rendues publiques quelques jours donc avant la sortie de son dernier film. Du coup, peut-on voir le film de l'artiste Polanski, J'accuse, sans penser à l'homme Roman Polanski? Au même moment, c'est-à-dire aujourd'hui même, sort dans quelques salles d'art et d'essai un long documentaire instructif, important et à bien des égards édifiant. « Rendre justice » de Robert Salis est un film qui donne la parole aux juges, aux magistrats des différentes cours, différentes juridictions, ces hommes et ces femmes qui rendent la justice au quotidien. De l'affaire Dreyfus à nos jours, le métier de juger est au centre des deux films. Rendre justice a bien sûr des résonances avec le sujet et l'auteur du film J'accuse. Notre invité principal est Robert Sadis, il est déjà avec nous. Également présent avec nous ce matin, Michel Simon du magazine Positif, en grand défenseur de Roman Polanski et de son film.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bien sûr que ça fait peur, la justice, et je comprends que ça fasse peur. On est terrorisé quand on vient devant la justice, à tout le moins très impressionné. On ne sait pas ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est une grosse machine devant laquelle on vient dans des circonstances toujours difficiles, qui traite une multitude de dossiers, qui a des instruments puissants, voire brutaux, qui peut tout d'un coup briser une vie sans même, sur le moment, en avoir conscience. Les gens qui viennent devant la justice apportent la dentelle de leur vie. Et la justice, elle répond souvent avec une presse hydraulique. Elle a, c'est vrai, des sortes de délicatesses de 35 tonnes qui se gardent dans un magasin de vaisselle. Mais c'est pas de la mauvaise volonté. C'est en réalité un traitement complexe d'affaires complexes. Et c'est la rencontre assez rugueuse entre des sensibilités qui accompagnent des problèmes individuels, souvent douloureux, et une grosse machine qui est destinée à les traiter. La grosse machine qui rencontre les drames individuels, elle est souvent un peu lourde dans ses effets, dans ses conséquences.
Voilà, on vient d'entendre André Potocki, donc qui est juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est ainsi, avec ce propos très lourd, que s'ouvre votre film « Rendre la justice ». Robert Sadis, bonjour.
Bonjour. Oui, c'était le but de montrer le fonctionnement de la justice uniquement à travers les magistrats. Donc, dans le film, c'est pour ça que le titre c'est « Rendre la justice », parce que ce sont les magistrats qui rendent la justice. Et il n'y a pas dans le film ni de justiciable ni d'avocat. C'est parce que le film, pour moi, se présente comme une réflexion sur l'acte de juger. Donc ce sont des magistrats hommes et femmes, et que on connaît très peu en général, à part François Molins, qui a fait malheureusement l'actualité avec les attentats.
Oui, parce que vous avez décidé de vous adresser à toutes les juridictions, hein, c'est-à-dire oui. Aussi bien les juges pour enfants que les juges chargés des affaires de terrorisme, que, on vient d'entendre d'ailleurs, que pour la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, l'idée c'était de montrer, parce que quand on parle de justice, on pense beaucoup à la justice pénale, mais en fait, la justice civile, elle est hyper importante puisqu'elle traite les deux tiers des procédures. En fait, la justice civile, c'est celle qui tranche les conflits entre les particuliers, tandis que la pénale, ça sanctionne des infractions à la loi. Et très souvent, on oublie cette justice civile. C'est pour ça que c'est important de la montrer, notamment...
Et de faire parler ceux qui, donc, l'incarnent.
Ils l'incarnent, mais en même temps, ils la rendent au quotidien. Alors, c'est une grande difficulté que d'être juge, parce que passer son temps à prendre des décisions et à juger les autres, c'est vraiment pas une fonction évidente. Donc, en plus, ça amène une question de pouvoir aussi. Et donc, si...
Comment on gère ce pouvoir?
Comment on gère ce pouvoir? Si procure une jouissance, c'est là où il y a un dérapage très vite. C'est ce que dit un des magistrats dans le film. Et c'est vrai qu'il y a des juges qui peuvent, même inconsciemment ou consciemment, avoir une jouissance du pouvoir. Donc, c'est vrai que les pouvoirs qu'ils ont sont énormes. Ils peuvent mettre en examen, incarcérer, tout ce que l'opinion publique connaît. Mais le problème avec la justice, c'est que soit on n'a jamais eu affaire à la justice et on en a peur et donc il vaut mieux pas trop s'en approcher. Soit lorsqu'on est pris dans l'engrenage, c'est terrible parce que qu'on soit innocent, vous connaissez le dicton, innocent ou coupable, quand on est pris dans l'engrenage, c'est du pareil au même en fait.
Donnez la parole à ceux qui rendent la justice, c'est ce que vous faites dans ce documentaire qui sort dans quelques salles de cinéma aujourd'hui. Robert Sadis, quelles sont les questions que vous avez posées à ces magistrats, à ces juges? Parce que bien entendu,
vous les avez enlevés au montage, donc nous on a un accès direct à la parole de ceux qui rendent la justice, mais est-ce que les questions que vous leur posiez, c'était des questions qu'on se pose tout le temps, c'est-à-dire est-ce que la justice est équitable? Est-ce que vous avez connu des erreurs judiciaires préjudiciables? Est-ce que votre métier est un métier qui nécessite plus de moyens ou pas? Parce que là, on a tous les propos.
Oui, oui, oui. L'important, c'était, en fait, les magistrats sont des hommes de loi, en fait. Et donc, ils font appliquer la loi et le droit. Mais on oublie trop souvent qu'ils ont aussi des devoirs. Et il y en a qui oublient un petit peu la notion de devoir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre en parallèle et le droit et le devoir. Et donc là où les magistrats ont été vraiment enjoué le jeu, c'est que ils ont un peu oublié leur devoir de réserve, parce que normalement ils parlent pas aussi facilement.
Comment vous avez fait justement pour les faire parler?
Alors, disons qu'il a fallu un petit peu les apprivoiser. J'ai eu la chance d'écrire le film avec un magistrat lui-même, donc qui m'en a présenté plusieurs.
Qui était un peu
le sésame et la caution, qui est lui-même, il est président de la cour d'assises, donc il exerce cette fonction très très difficile, qui est de bon. Ça va très vite, hein. Vous pouvez très bien avoir des prévenus qui prennent 10 ans, 15 ans de prison. Moi, personnellement, je pourrais pas faire exercer une fonction pareille, parce que c'est vraiment très difficile. Et ce dont on s'aperçoit dans le film, c'est que, effectivement, il faut savoir écouter. Et donc... Et le film aussi, il faut avoir envie d'écouter, parce que c'est un film de parole. Et donc, j'ai voulu donner la première place à la parole. Alors, les questions, on leur a posé des questions un peu type à chacun. Mmh. Mais l'idée, c'était de faire en sorte que ce soit des conversations à bâton rompu.
Ils avaient un droit de regard sur le montage final du film?
Non, pas du tout. Et là, lorsqu'on a montré le film qui était sélectionné au Festival d'Angoulême, j'ai eu le plus beau compliment qu'on puisse me faire par une magistrate. Donc, c'est celle qui n'a pas la langue de bois plus que les autres dans le film. C'est Fabienne Ciré-Desgarniers. Elle m'a dit, j'ai souvent été interviewée, et beaucoup, et d'habitude, je reconnais pas mes propos. Et là, j'ai absolument jamais été trahi. Et ça, c'est le plus beau compliment. Et les autres.
Alors,
aussi.
Je sais pas si c'est un beau compliment, mais en tout cas, ce qu'elle raconte dans votre film, et elle termine d'ailleurs votre film en donnant sa propre définition de la justice, et surtout en nous prodiguant un conseil qui nous laisse, seulement qu'on puisse dire, dubitatif.
Je conseille à toute personne, si elle a le choix, d'éviter l'institution judiciaire, bien sûr. Ça peut paraître paradoxal, mais pour moi, l'institution judiciaire, je parlerai du pénal, hein, bien sûr. Donc là, on n'a pas le choix, donc la question ne se pose pas. Mais au civil, des divorces, des successions, des litiges entre individus, pour des histoires de copropriété, enfin voilà, qui rendent les gens fous au sens propre du terme, oui. Je pense qu'ils auraient dû réfléchir à deux fois avant de saisir la justice, bien sûr. Mais là, ça échappe au juge, je dirais. C'est véritablement quasi philosophique. C'est le rôle même de la justice qui est en cause. C'est pas tant le juge lui-même.
Quand on entend ce genre de discours, et là, c'était Fabienne Ciré-Desgarniers, donc la présidente de la Chambre correctionnelle à Paris, hein, c'est le tribunal.
Oui, mais maintenant, elle a été, si j'ose dire, un peu promue. Elle est vice-présidente de l'autorité de la concurrence, donc c'est l'autorité qui régule les marchés, les grands groupes, et donc...
Mais la conclusion de votre film, Rendre la justice, c'est donc cette présidente qui nous dit, si vous pouvez éviter la justice, s'il vous plaît, faites-le. Parce que une fois que vous êtes dedans, l'engrenage, on ne sait pas où il va nous mener, et elle s'inclut dans cet engrenage infernal de la justice en France.
C'est pas la seule, en plus.
Oui, c'est pas la seule.
Ils le disent tous, c'est bon. La particularité que j'ai voulu mettre en avant dans le film, c'est que nous sommes tous des justiciables potentiels. Il suffit que quelqu'un vous dénonce, il suffit que y ait quelqu'un de malveillant qui vous veut du mal, ou alors que vous êtes pris involontairement dans un accident, vous êtes tout à fait dans la machine judiciaire. Et là, vous en connaissez ni les codes, vous perdez tous vos repères, vous avez absolument plus la notion du temps, parce que la justice censée On ne sait pas combien ça va durer. Il y a des procédures qui peuvent s'éterniser des années. Et donc, c'est très, très douloureux d'avoir affaire à la justice. Même si vous sortez, vous gagnez votre procédure, il y a toujours une frustration qui reste en vous parce que l'énergie que vous avez dépensée, le temps, l'argent par rapport aux résultats, c'est vraiment malgré tout très frustrant.
Rendre la justice, c'est le titre de votre film. Alors non seulement vous allez à la rencontre des juges, à la rencontre de ceux qui effectivement ont le pouvoir de rendre la justice, mais pas seulement, puisque vous allez aussi voir comment on forme les juges de demain, d'ailleurs avec une histoire sur la parité qui est on ne peut plus incongrue, parce que vous prenez tout le monde à contre-pied. Dans votre film, on apprend qu'il y a de plus en plus de filles qui font ces études pour devenir magistrat et que ça risque d'être mal perçu, que si dans quelques années il y a 80% des juges qui sont des femmes, peut-être que c'est pas bien, alors que ça fait à peine 70 ans que les femmes ont droit d'exercer ce genre de métier. Aujourd'hui c'est 64%, je crois, c'est ce que vous nous dites dans le film.
Oui, donc c'est vrai qu'à l'École nationale de la magistrature il y a beaucoup plus de filles, et dans les facs de droit aussi, et donc il y a beaucoup de femmes qui veulent embrasser la carrière judiciaire, même au niveau des avocats aussi. De toute façon, ça se voit dans les tribunaux. Il y a beaucoup plus de femmes juges et de femmes avocates. Et c'est vrai qu'en matière familiale, par exemple, surtout...
Les affaires de divorce et de garde d'enfants, ouais.
Voilà, le père du couple peut se sentir un petit peu lésé et avoir l'idée que...
Et c'est juste une impression, disent justement les magistrats, c'est juste une impression parce que, qu'on soit magistrat ou magistrate, on applique les mêmes règles, la même loi, du moins théoriquement.
Oui, mais moi j'aurais pu appeler le film « Ça dépend du juge » parce que en matière civile, c'est beaucoup des audiences à juge unique. Donc selon le juge sur lequel vous tombez, en fonction de malgré tout, ils doivent appliquer la loi, mais en fonction de leur qualité d'écoute, de la façon d'appréhender les choses, d'appréhender le dossier, pour une même affaire, d'un endroit à l'autre, ça peut varier vraiment beaucoup.
Votre film, Robert Salis, sort en même temps que le film très attendu de Polanski sur l'affaire Dreyfus, J'accuse. Alors ça nous permet effectivement de faire une comparaison, de voir si la justice française a évolué depuis cette affaire. Michel Simon est avec nous ce matin. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors vous avez vu les deux films avant d'arriver au J'accuse de Polanski. Vous vouliez dire quelque chose sur le film de notre invité Robert Salis. Le documentaire Rendre la justice.
Je voudrais te poser une question dans le contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le film est passionnant et les témoignages d'abord d'une grande intelligence et d'une grande modération de la part de la plupart des juges qui disent effectivement que tout le monde commet des erreurs judiciaires, que remettre en cause sa propre certitude, toutes ces choses sont très belles. Mais dans le cinéma américain classique, Autopsie d'un meurtre, 12 hommes en colère, ça montre toutes les carences de la justice en Amérique, mais ça se termine tout de même bien par ce fameux happy end. Et je me demande si c'est pas finalement une meilleure mesure de sécurité, parce que nous sommes dans une époque aujourd'hui d'un tel populisme où on conteste absolument tout, c'est-à-dire les hommes politiques sont tous des lamentables, les juges sont en dessous de tout, etc. Ça encourage les gens vers cette idée de se venger eux-mêmes, que de protester contre tout, c'est-à-dire de ne plus croire en rien, ce qui est tout de même très dangereux parce que ça peut amener dans d'autres périodes, on a vu ce que ça amenait, ça amène vraiment le fascisme, ça amène la dictature. Et je me demande si il n'y aurait pas eu une façon tout de même de rééquilibrer un petit peu le discours. Comment vous avez choisi ces gens que vous interviewez ?
Je suis tout à fait sensible à ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Seulement, dans le film, le fait de voir ces magistrats qui sont tous très très humains et donc qui ont une grande humilité, ça montre qu'il faut malgré tout, quels que soient les dérapages qui puissent arriver, avoir confiance en la justice. Sauf que il faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de garde-fous pour pas arriver à ces dérapages et à ces erreurs judiciaires. Parce qu'il y en a, ils le cachent pas.
Et donc, mais ils n'ont pas les moyens d'avoir ces garde-fous, ils vous le disent aussi.
Oui, et donc pour moi, s'il y avait une façon d'améliorer la justice, ce serait à la fois des moyens, mais aussi un changement d'état d'esprit. Et donc au niveau de la formation, c'est pour ça qu'à l'École nationale de la magistrature, de plus en plus, la formation évolue vers le fait de contrôler le mental, si j'ose dire, des candidats magistrats, en fait. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que les films américains, ça se termine un peu avec Happy End, mais il faut bien dire que la justice américaine, elle est à mille lieues du fonctionnement de la justice française. Donc, aux États-Unis et même en Angleterre, la justice anglo-saxonne, les juges sont élus d'abord, et en fait, le pouvoir de l'argent est immense. Donc, si vous avez de l'argent, vous pouvez vous en sortir. Le petit jeune d'une banlieue des États-Unis qui a rien, il est foutu en prison vite fait.
Bon, ça se passe à peu près aussi, la même chose ici aussi, en France. C'est ce que vous dit Fabienne.
Il y a quand même une juge.
Thierry Garnier, ouais.
Il y a une juge noire qui travaille aux affaires familiales qui dit qu'en Amérique, il y a des juges noirs. C'est-à-dire, on voit très peu de juges noirs.
Oui, tout à fait.
Enfin, ceci dit, l'exemple que vous donnez avec ce jeune Français d'origine maghrébine qui se retrouve dans un tribunal populaire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très très mal à l'aise quand il rencontre les justiciables, surtout quand les justiciables sont issus, comme lui, de cette culture française de banlieue d'origine immigrée. Quoi.
Alors figurez-vous, lui c'est Youssef Badr, l'a filmé, il était encore procureur, et quelques mois après il a été nommé porte-parole de la ministre de la Justice. Donc, et il avait un poste très important, maintenant il est à l'école de la magistrature en charge de la formation, mais ça l'a beaucoup marqué, effectivement, en tant que juge d'origine marocaine, d'être pris à partie, de considérer comme traître par des petits jeunes de banlieue qu'il avait devant lui. Et ce qu'il dit, c'est vraiment très juste, parce que il dit on a tendance à les juger de façon sur des préjugés, mais quand on est dans cet engrenage-là de l'argent facile, c'est pas si facile justement de s'en sortir, parce que bon, quelle issue il y a pour ces jeunes de banlieue aussi, et ça, il a pas peur de le dire.
Voilà, et votre film, il sort en même temps que ce film de Roman Polanski, J'accuse.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres.
Vous êtes désormais responsable du renseignement.
Mon colonel.
Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas un traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres.
Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus.
Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même.
Avant d'avoir l'avis de Michel Simon, du magazine Positif, qui a aimé le film, hein, pas de suspense, il a aimé le dernier film de Roman Polanski, je voudrais avoir votre avis, Robert Salis. Le fait que votre documentaire qui parle du fonctionnement de la justice en France aujourd'hui sorte en même temps que le J'accuse, qui nous renvoie à l'époque de l'affaire Dreyfus, la question c'est, est-ce que la justice a évolué depuis ?
Dans la façon d'être rendue, elle a forcément évolué. Dans J'accuse, c'est pas vraiment la justice, puisque c'est une justice militaire, ce qui est quand même assez différent. Donc, avec un tribunal militaire. Donc, il y avait une très forte ambiance d'antisémitisme à cette époque. Donc, l'affaire Dreyfus est vite devenue une histoire. Vraiment, elle a divisé la France en deux clans sur fond d'antisémitisme. Mais il y a quand même encore aujourd'hui, et on ne le cache pas dans le film, les juges ne le cachent pas, il peut y avoir des injustices. De toute façon, très récemment, avec l'affaire Doutreau, on a bien vu à quel point c'était compliqué. Et d'ailleurs, cette affaire Doutreau a fait un peu un électrochoc, puisque à la suite de ça, ils ont amélioré les conditions d'entrée à l'école. Et ils ont développé, par exemple, maintenant à l'école de la magistrature, vous avez un examen pour savoir si votre moralité, quand même, elle risque pas. Si psychologiquement vous êtes apte à exercer, parce que il y a des personnes, comme dans toutes les professions de toute façon, s'il y a des personnes qui risquent de déraper, il vaut mieux les prévenir avant. Hein.
Michel Simon, alors ce film de Polanski, J'accuse, c'est le titre, c'est bien sûr son récit de l'affaire Dreyfus, on sait que ce film est très attendu, mais pas seulement pour des raisons cinéphiliques, c'est pour d'autres raisons, mais si on doit parler juste du film.
Écoutez, d'abord, Positif a décidé de faire un dossier sur les cinéastes qui étaient très connus, respectés dans le monde entier dans les années 60, et qui, 50 ou 60 ans plus tard, sont toujours en vedette dans l'actualité. On n'en parle pas dans la presse. La couverture, c'est le film de Bellocchio, où il y a un procès d'ailleurs extraordinairement bien filmé. Bellocchio était très connu dans les années 60, comme Costa Gavras, comme Ken Loach, comme Polanski. Et tous ces gens-là sont dans l'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un témoignage de vitalité extraordinaire. Peut-être parce que on est dans une époque de jeunisme, on ne peut pas admettre que des gens qui ont plus de 80 ans, entre 80 et 90 ans, ont conservé une extraordinaire jeunesse, une extraordinaire audace. Et évidemment, Polanski est la preuve, avec Bellocchio peut-être, la plus éclatante. Il y a aussi Ken Loach, hein, mais de cette vitalité. Alors d'abord, je crois qu'il y a un malentendu sur Polanski. Moi, je pense que Polanski a toujours été un classique. Il est arrivé en même temps que la Nouvelle Vague, donc on l'a associé à Godard ou à René, ça n'a aucun rapport. Polanski a toujours admiré le grand cinéma américain classique, le grand cinéma anglais, David Lean, Carol Reed, etc., Laurence Olivier. Il attache une importance exceptionnelle au scénario, à la qualité des comédiens, à la photo, etc. C'est-à-dire, c'est un cinéaste complet. C'est pour ça qu'il est tellement admiré aux États-Unis. Et je trouve que ce film, c'est la démonstration, c'est presque un mécanisme à la Fritz Lang. C'est un film d'une rigueur absolue, c'est-à-dire la contre-expertise de Picard, parce que c'est pas un film sur Dreyfus. D'ailleurs, Dreyfus est présenté comme un personnage assez médiocre. Quand Picard l'a sauvé, il lui dit même pas merci. Il lui dit, vous avez fait votre travail. Il n'est pas reconnaissant, alors que l'autre a fait de la prison pour sauver Dreyfus. Donc c'est pas un éloge de Dreyfus, c'est un éloge de la justice. Un éloge d'un homme qui, antisémite au départ, s'est mis du côté du juif qui est injustement accusé. Et je pense que c'est un film assez magistral, et qui est dans cette grande tradition de Polanski, comme Chinatown, comme Le Pianiste, c'est une œuvre classique. Et alors on va peut-être, certains vont dire, mais pas vraiment beaucoup, parce que le film est formidablement bien accueilli, on va dire académique, mais ça veut rien dire. L'académisme est autant les imitateurs des frères Dardenne qui courent après quelqu'un et qui filment le dos du personnage principal pendant une heure et demie avec une caméra qui tremble.
Et on va pas y échapper à la fameuse question de l'actualité de Roman Polanski. Est-ce qu'il a fait ce film sur la justice, sur les mécanismes de la justice, pour aussi parler et répondre de tout ce dont on l'accuse?
Non, je pense pas. Je pense que c'est un faux débat, comme beaucoup de choses qui s'écrivent dans la presse aujourd'hui. C'est un faux débat. C'est pas une autodéfense. Il n'a pas l'audace de se comparer à Dreyfus. Polanski a reconnu sa culpabilité. Il a fait de la prison. Il a reconnu ses crimes. Et le comparer à Harvey Weinstein, c'est complètement stupide. Et comparer avec Woody Allen, c'est également stupide, puisque Woody Allen, lui, a été proclamé innocent par la justice, par les médecins, par son fils, etc. Et donc, dans le cas de Woody Allen, c'est quelqu'un qui est reconnu coupable par tous les journaux alors qu'il n'a aucune culpabilité démontrée, sauf la haine que lui donne sa femme.
Alors, autrement posé,
Polanski, lui, ouais, s'est déclaré coupable. Donc, on mélange tout. On est dans une époque d'amalgame où tout le monde devient juge. Tout le monde, maintenant, est un procureur. Et tout le monde dénonce tout le monde.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Le J'accuse de Roman Polanski sort aujourd'hui au cinéma et en même temps, dans quelques salles, le documentaire de mon invité ce matin, Robert Salis, Rendre la justice. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci.
Merci Michel Simon. Je rappelle que la couverture de Positif est consacrée bien sûr au film, un autre film concernant la justice en Italie, extrait du film de Marco Bellocchio, Le Traître.
Du formidable interprète Pier Francesco Favino. Et puis bien sûr, aussi on recommande un magnifique film d'animation, J'ai perdu mon corps, de Jérémie Clapin, et Les Misérables, de Lady Li, premier film français.
De Lajli, oui, le film de Lajli, voilà, qui va sortir bientôt, on va bien sûr en
qui
parler.
Qui a eu un prix du jury au Festival de Cannes.
Très mérité, sur France Culture. Merci Michel. Et bonne journée, on se retrouve demain.
France Culture, L'esprit d'ouverture.
Une demi-heure de reportage sans commentaire. Les pieds sur terre, Sonia Kandoum.
Cette semaine dans Les pieds sur terre, des histoires stimulantes ou révoltantes, passionnantes et émouvantes sur la vie amoureuse et la vie après les attentats, le sexe en Suisse et les mères des toutes petites communes. Avec des crises de nerfs, une reconversion, deux femmes d'affaires et sept adolescents.
Les pieds sur terre, de lundi à vendredi à 13h30 et sur franceculture.fr. Voir le monde, au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Kervran.
Un an après l'acte 1 du mouvement des Gilets jaunes, LSD est allé dans les cafés du coin tendre son micro et confier des enregistreurs à des habitants et habitantes de la Meuse, des Cévennes, de l'île de Groix et de la Creuse, pour capter l'air du temps et poser cette question. Et vous, comment vivez-vous?
Radio Café, chronique française, LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La présidente du Sénat prend les rênes de la Bolivie en lieu et place d'Evo Morales, contraint à la démission par la rue. Lui et ses partisans crient au coup d'État. Des manifestations pacifiques ont eu lieu hier à La Paz. Reportage à venir. Nous entendrons ensuite le représentant de la CFDT en France après le report d'une mesure sur le travail de nuit. Le gouvernement annonce finalement 6 mois de concertation. Des centaines d'étudiants dans les rues contre leur précarisation. Vendredi dernier, un jeune homme s'est immolé par le feu après s'être vu refuser une bourse d'études. Nous avons interrogé le principal syndicat étudiant, la FAGE. Et puis dans ce journal, vous découvrirez une strophe inédite écrite par Baudelaire dans un recueil des Fleurs du Mal. Strophe écrite par le poète, mise aux enchères dans 10 jours. La présidente du Sénat de Bolivie prend donc la présidence du pays par intérim. Jeanine Agnès, 52 ans, a fait cette annonce devant les parlementaires hier soir. Elle invoque une clause constitutionnelle qui stipule qu'il lui revient d'assurer cet intérim après les démissions du président et du vice-président. Le président démissionnaire Evo Morales dénonce lui un coup d'État le plus sournois et le plus désastreux de l'histoire. Il a trouvé l'asile politique au Mexique voisin. Et depuis son départ, ses partisans socialistes descendent dans les rues de La Paz, violemment d'abord, puis pacifiquement hier. C'est un reportage d'Alice Campagnol.
Les partisans d'Evo Morales s'étaient réunis hier dans le centre-ville de La Paz pour exprimer leur colère face à ce qu'ils appellent un coup d'État. Leur dirigeant a été forcé par la rue à démissionner, lui qui avait été élu démocratiquement en 2014 avec plus de 60% des suffrages. Aujourd'hui, les soutiens de l'ancien président, souvent humbles et majoritairement d'origine indigène, se sentent plus seuls que jamais.
Sinceramente, no hay que nos representen nosotros.
Sincèrement, il n'y a personne pour nous représenter. La voix du peuple est partie. Celui qui nous a toujours représentés n'est plus là auprès de nous. Il n'y a personne. Qui va dire notre vérité ?
Le regroupement était pacifique après les violences qu'a vécues La Paz pendant 2 jours. Violences commises par des groupes qui soutiennent aussi l'ancien président venu semer la terreur dans la ville. Mais les manifestants aujourd'hui voulaient montrer un autre visage des mouvements indigènes et paysans. Ils sont descendus dans la rue avec des demandes précises.
Ce que nous voulons, c'est un gouvernement neutre et provisoire. Et si cette Agnès veut être présidente, on ne va pas l'accepter.
Mais c'est bien Jeanine Agnès du parti Unité Nationale de l'opposition qui s'est déclarée présidente par intérim de la Bolivie hier soir. Et la nouvelle occupante du fauteuil présidentiel n'a pas l'appui des parlementaires du MAS, le parti d'Evo Morales, ni de ses militants.
C'était notre correspondante Alice Campagnol. Je précise que le bilan des violences depuis 3 semaines est revu à 7 morts en Bolivie. Des violences également au Liban en pleine contestation populaire. Le président Michel Aoun a estimé hier que le pays serait confronté à une catastrophe si les contestataires ne rentraient pas chez eux. Cela a provoqué l'effet inverse avec une nouvelle vague de manifestations. Une personne a été tuée par balle après une altercation avec des soldats près de Beyrouth. Le Liban connaît sa pire crise économique depuis la guerre civile entre 75 et 90. Le Parti socialiste espagnol a conclu un accord avec la formation de gauche Podemos. Ils espèrent ainsi jeter les bases d'une coalition au surlendemain des législatives. Cette possible alliance en Espagne, toutefois, ne suffirait pas à dégager une majorité à la Chambre des députés. Les socialistes et Podemos devront obtenir le soutien de partis minoritaires, avec lesquels ils devront également s'accorder sur la délicate répartition des portefeuilles ministériels. Le gouvernement temporise sur le travail de nuit. Une mesure autorisant les commerces alimentaires à ouvrir entre 21h et minuit devait être présentée en Conseil des ministres ce matin. Finalement, la question est renvoyée à l'été prochain, après une concertation de 6 mois, dit l'exécutif. La mesure avait déjà fait l'objet d'un amendement dans la loi Pacte, avant d'être censurée pour la forme par le Conseil d'État. La voilà reportée sur le fond, car elle ne satisfait ni le patronat dans le secteur de la grande distribution, ni les syndicats. Écoutez notamment le secrétaire général de la CFDT Service, Olivier Guivarch, satisfait de cette concertation à venir.
Pour la CFDT, ce n'est pas un problème de se donner du temps sur ce sujet, puisque c'est un sujet de société aussi. Le fait d'ouvrir les commerces alimentaires après 21h, de faire travailler des salariés dans ces commerces après 21h, de faire travailler la sous-traitance, la prévention sécurité notamment, et aussi les salariés des transports. Ce n'est pas plus mal de se donner du temps. Il y avait un vrai conflit des logiques entre les organisations patronales et les organisations syndicales. Les organisations patronales veulent pouvoir ouvrir jusqu'à minuit sans statut protecteur, sans garantie importante pour les salariés, que ce soit les salariés du commerce alimentaire et les sous-traitants. Et pour la CFDT, il y a lieu de négocier un cadre social bien plus important, des garanties sociales élevées. Et c'est ce conflit des logiques, cette absence de compromis entre partenaires sociaux, c'est ça qui a conduit les pouvoirs publics à temporiser.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon. Des dizaines d'étudiants étaient dans les rues hier. Manifestation hommage à un jeune homme qui s'est immolé par le feu vendredi dernier devant le Crous de Lyon pour dénoncer sa précarité. Il reste ce matin encore entre la vie et la mort. À Lyon 2, l'université hier a pris la décision de fermer tous les bâtiments à cause de blocages et d'actes de vandalisme. À Lille, des étudiants ont envahi un amphithéâtre où François Hollande devait tenir une conférence. Tous dénoncent des difficultés pour se loger, des aides sociales trop faibles. Certains étudiants, certains manifestants hier ont déclaré devoir faire les poubelles pour pouvoir manger. Orlane François est la présidente de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Et d'après elle, ces témoignages sont loin d'être des cas isolés.
Il y a un étudiant sur deux qui avoue avoir sauté des repas dans les moments les plus difficiles. Et donc, ces moments les plus difficiles, malheureusement, arrivent de plus en plus souvent. Et donc, non, c'est pas étonnant que des étudiants aient besoin d'aller chercher les invendus et les produits, les denrées jetées par les supermarchés pour pouvoir trouver des denrées. Forcément, l'étudiant, quand il doit faire des économies, il va choisir des postes de dépenses comme, en effet, la nourriture ou bien le chauffage de son appartement lorsqu'il en a un. Voilà, c'est des postes de dépenses qui, souvent, font les frais de la précarité des jeunes. Et donc, voilà, tout ce qui est logement, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est santé sont souvent des choses qui sont mises de côté en cas de précarité. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit sur les campus quand, dans nos épiceries sociales et solidaires, on voit de plus en plus de jeunes, de plus en plus précaires se présenter devant nous et demander d'avoir accès à notre épicerie sociale, parce que la précarité, c'est quelque chose de réel, c'est pas quelque chose qui est juste prôné dans nos discours ou dans nos revendications, c'est quelque chose qu'on voit quotidiennement, nous, en tout cas, sur les campus, avec les jeunes qu'on accompagne, et c'est d'une vraie difficulté.
C'était la présidente de la FAGE, Orlane François, invitée du journal de Diane Sprimon lors du journal de 22h sur France Culture hier soir. 4 ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, une cérémonie va se dérouler dans la matinée à Paris, en présence de la maire de Paris et du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, devant les plaques commémoratives dévoilées en 2016. Un jardin souvenir doit être créé également à Paris. Le Conseil de Paris l'a acté hier soir. Témoignage d'une survivante de la tuerie du Bataclan sur France Culture 4 ans après. Ce sera dans le journal de 7h tout à l'heure. Et j'ajoute que Guillaume Erner recevra le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, à partir de 7h40. Mais terminons avant cela ce journal avec les mots de Charles Baudelaire. Des mots tout nouveaux que vous n'aviez jamais lus. Une strophe inédite des Fleurs du Mal a été découverte plus de 150 ans après avoir été couché sur le papier. Les 4 lignes manuscrites ont été ajoutées par le poète à une édition originale du recueil publié en 1857. Un ouvrage retrouvé en fait à l'occasion d'une succession sans héritier direct dans une petite bibliothèque d'un appartement parisien. C'est Myrtille Dumonteil, commissaire-priseur chez Drouot, qui l'a trouvé.
C'est un ouvrage qui a été offert par Baudelaire à Gaston de Saint-Valery, qui était journaliste et critique littéraire, et donc il lui a dédicacé le livre. Et dans cet ouvrage, il y a une strophe totalement inédite d'un poème qui s'appelle « Les bijoux », une dernière strophe qui a été rajoutée par Baudelaire. L'écriture a bien été authentifiée et elle est bien de la main de Baudelaire. Je vous la cite. « Je suis plein alors de cette vérité, que le meilleur trésor que Dieu garde au génie est de connaître à fond la terrestre beauté pour en faire jaillir le rythme et l'harmonie. » C'est vraiment ce type d'objet qu'on espère trouver à chaque fois qu'on vend une succession. Je suis assez contente.
Et cet ouvrage sera vendu aux enchères le 22 novembre prochain. Il est estimé entre 60 000 et 80 000 euros. Grisaille et brume sont au programme de cette matinée sur la moitié ouest du pays du moins. Près de la côte atlantique et des frontières du nord et de l'est, des averses sont prévues. Ciel dégagé en revanche sur le sud-est. Les températures, elles, restent très fraîches avec 6 degrés à Clermont-Ferrand ce matin, 7 à Strasbourg, 8 degrés à Lille, 10 à Paris et Nantes, 16 dans la matinée à Nice. Il est 6h40, place au Journal des Idées avec vous Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
Jacques, nous l'évoquions il y a quelques minutes, de Santiago à Bagdad, de Hong Kong à Alger ou à Beyrouth, la mobilisation ne faiblit pas. Au-delà des spécificités propres à chacun de ces mouvements, le point commun, Jacques, est une demande de démocratie sociale.
Oui, d'une photo à l'autre, les images qui nous parviennent des manifestations à travers la planète paraissent étrangement similaires, observe Julien Bisson dans l'hebdomadaire Le 1. Et leur cause se ramène en effet pour l'essentiel à une crise de la démocratie représentative, au creusement des inégalités, à la corruption et à la monopolisation du pouvoir. L'autre caractéristique commune, outre la spontanéité des mouvements, est la créativité des slogans, l'humour en Algérie ou ces exemples au Chili. Ils nous ont tout pris, même la peur, et la démocratie des riches, la dictature des pauvres. Dans le fond, peu importe la nature de l'étincelle, l'élément déclencheur, le prix du ticket de métro, ou la taxe sur WhatsApp, d'autant qu'il s'expose d'emblée au mépris des élites, comme le souligne Laurent Binet, qui cite Machiavel « Les buts du peuple sont plus honnêtes que ceux des grands, les uns voulant opprimer, l'autre ne pas être opprimé. » On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes et la fin du mois étriquée rapportée à la fin du monde, l'écrivain ajoute que toute la perversité des sociétés inégalitaires réside dans ce mouvement génial. En ne laissant que des miettes aux pauvres, on les force à se battre pour ces miettes et ainsi on peut leur reprocher leur petitesse, leur manque d'idéal, leur matérialisme vulgaire. En somme, les puissants se partagent à la fois le beurre de l'inégalité et l'argent du beurre du mépris. Et Vincent Martigny ajoute qu'on peut s'inquiéter de la violence de ces mouvements ici comme ailleurs, mais ce dont nous devrions bien plus nous méfier, c'est de l'autre danger qui guette les foules démocratiques, celui de l'apathie, du désintérêt pour la chose publique qui détruit les solidarités sociales plus sûrement que le conflit démocratique. Cette apathie-là permet de la mise sous tutelle d'un citoyen zombifié, indifférent à la marche du monde et constitue la maladie la plus grave qui menace notre système politique. Dans un article du New York Times relayé par Courrier International, Declan Walsh et Max Fischer relèvent cependant que plus les mouvements de contestation se développent, moins ils réussissent. Ils citent l'étude d'une politologue à Harvard qui montre qu'il y a une vingtaine d'années, 70% des manifestations qui exigeaient des changements politiques systémiques atteignaient leur objectif, un chiffre qui était en augmentation constante depuis les années 1950. Mais à partir du milieu des années 2000, la tendance s'est inversée. Le taux de réussite est aujourd'hui de 30%. Pour les journalistes, ces deux tendances sont étroitement liées. Les mouvements de contestation, s'ils sont plus fréquents, risquent plus souvent d'échouer et s'installent alors dans la durée. Ils deviennent plus controversés, plus bruyants. Ils sont davantage susceptibles de redescendre dans la rue si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et l'on se retrouve donc dans un monde où les soulèvements populaires perdent leur caractère exceptionnel pour finir par faire partie du paysage. D'autant plus que sur la durée, ils en viennent à se ressembler. C'est ainsi que les mouvements de contestation au Moyen-Orient rappellent immanquablement les soulèvements des printemps arabes. Or, les manifestations récentes sont l'expression d'une nouvelle génération qui se préoccupe moins loin des anciennes lignes de fracture sectaire ou idéologique. Au lieu de réclamer la tête d'un dictateur, comme tant d'Arabes l'ont fait en 2011, les Libanais, eux, rejettent la faute sur toute la classe politique. À Hong Kong, c'est l'introduction d'une loi permettant l'extradition vers la Chine populaire qui a mis le feu aux poudres. Le 16 juin, 2 millions de personnes manifestaient pacifiquement, mais sans réponse politique autre que le retrait provisoire du projet de loi. La confrontation a pris un tour violent. Un étonnant article du journal d'opposition Apple Daily défend l'esthétique de la violence révolutionnaire en citant Les Misérables de Victor Hugo, La Commune de Paris, mais aussi la poétesse et révolutionnaire chinoise Qiu Jin ou le jeune collaborateur de Sun Yat-sen, Wang Jinweng. Dans le film, la fondation d'un parti célébrant le 90e anniversaire du Parti communiste chinois, lorsqu'il est question de l'insurrection ouvrière dans les villes chinoises sous la direction du PCC en 1927, l'action d'un jeune groupe de miliciens est tellement embellie qu'elle a ému aux larmes les vieux révolutionnaires, écrit Tokit, qui évoque également les figures de Lénine et Che Guevara, et s'en prend au pouvoir autoritaire né il y a 100 ans sous des auspices romantiques, et met aujourd'hui en garde les nouvelles générations. Moi, j'avais droit au romantisme, aujourd'hui, je vous le refuse. Et puisqu'il me reste quelques secondes jusqu'à 6h45, Julie Gacon.
Bonjour.
Une petite citation, ça fait pas de mal, de Victor Hugo. Une insurrection qui éclate, c'est une idée qui passe son examen devant le peuple. Bon, passons aux enjeux internationaux.
Bonjour
Julie Gacon. Aujourd'hui, grande question, va-t-on vers une dédollarisation du monde?
Le mot est réapparu à l'aune des alternatives à la monnaie américaine comme moyen de change par défaut. Ces alternatives sont mises en place par les pays visés par les sanctions américaines. Or, Donald Trump en a fait un quasi-automatisme de sa politique étrangère. Des dizaines de pays du monde, que ce soit l'Iran, le Venezuela, la Russie, la Corée du Nord, pour ne citer que, cherchent et souvent trouvent des moyens pour contourner la monnaie hégémonique. Entre les entreprises qui décident d'exporter désormais en euros ou en yuan tout, pourvu que ce ne soit pas en dollars, et les banques centrales qui veulent réduire l'exposition de leurs réserves aux billets verts, cela suffira-t-il à affaiblir le dollar? Bonjour Ali Laïdi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous venez de fonder l'école de pensée sur la guerre économique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la question que je citerai tout à l'heure. Ali Laïdi, comment le dollar est devenu la pierre angulaire non seulement de la puissance américaine, mais aussi de sa politique étrangère?
Tout simplement, il faut remonter sans doute à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où à travers la reconstruction de l'Europe et un certain nombre d'autres pays qui ont été frappés par cette tragédie, bien c'est notamment pour l'Europe le plan Marshall, à travers le dollar qu'on a relancé la construction d'un certain nombre de ces pays. Donc c'est vrai que le dollar est devenu la référence, et surtout quand en 71 Nixon décide de casser la parité dollar-or, eh bien les Américains le disent eux-mêmes, le dollar c'est notre monnaie, c'est votre problème. Et donc à partir de là, oui, cette hégémonie du dollar s'est installée sur l'ensemble du monde et en particulier des relations économiques internationales.
Et c'est donc une arme géopolitique aussi. Quand les États-Unis imposent des sanctions à des pays, est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent le faire que sur les transactions en dollars ou sur les entreprises qui commercent en dollars?
Alors, il y a plusieurs nexus, c'est-à-dire de liens. Lorsque les États-Unis veulent exporter leurs lois en dehors de leurs frontières, il y a le dollar, évidemment. À partir du moment où vous utilisez le dollar, les procureurs américains disent que vous utilisez une part de la souveraineté du territoire américain.
C'est l'extraterritorialité.
Mais il y a autre chose. Il y a aussi le fait, par exemple, d'utiliser, par exemple, un système de transmission américain, un Gmail ou autre, qui passe par un serveur installé aux États-Unis, etc. Il y a aussi, par exemple, le fait de réexporter des technologies dans lesquelles il y a une partie de technologie américaine. C'est les fameux règlements ITAR sur tout ce qui est produit dual, à la fois militaire et civil. Donc il faut demander aux États-Unis l'autorisation de réexporter. Et dans ces cas-là, vous tombez dans les lois américaines. Donc vous voyez, il y a toute une panelle qui permet à l'administration de la justice américaine, hein, je précise bien, l'administration de la justice américaine et non pas la justice américaine, d'intervenir en dehors de leurs frontières.
Alors pour bien comprendre comment ça se passe avec l'Iran par exemple, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Iran, sont sortis de l'accord sur le nucléaire iranien. Comment, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et surtout, que vaut cette alternative qui a été mise en place en Europe par la France, l'Allemagne, ils l'ont annoncé à l'ouverture du G20 l'été dernier, ce nouveau système commercial pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran est maintenant opérationnel, ça s'appelle INSTEX. Donc voilà, comment
le principe est assez simple. Les Américains ont un certain nombre de lois qui disent vous n'avez pas le droit, vous société américaine, mais vous également société étrangère, de faire du commerce avec tel ou tel pays. Alors il y a eu l'Iran, il y a eu le Cuba, il y a eu le Soudan, il y a eu la Libye, etc. au fur et à mesure d'un certain nombre de ces dernières années. Donc il y a des sanctions dites primaires qui s'appliquent uniquement à ce qu'ils appellent les US persons, donc les personnes étant en général américaines. Et puis, il y a les sanctions secondaires qui s'appliquent à absolument toutes les entreprises du monde entier. À partir du 8 mai 2018, lorsque les Américains quittent l'accord sur l'Iran, à ce moment-là, les États-Unis interdisent à toutes les entreprises du monde entier de faire du business avec l'Iran. Dans ces cas-là, évidemment, un certain nombre de pays ont décidé de ne pas respecter, même si concrètement toutes les entreprises étrangères ont quitté littéralement le territoire iranien. Mais pour maintenir en surface cet accord, évidemment, les autres signataires, l'Allemagne, la France, la Chine, la Russie, etc., ont décidé d'essayer de poursuivre quand même le commerce avec l'Iran, parce que c'est quand même la partie sur laquelle se sont engagés ces pays. En contrepartie, l'Iran cessait son programme nucléaire.
Et c'est efficace alors, INSTEX ?
Alors, INSTEX, c'est un instrument, un espèce de troc qui a été mis en avant par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, qui consistait à contourner les sanctions, mais uniquement sur le secteur des médicaments et des produits agricoles, secteur sur lequel la Cour internationale de justice a condamné les États-Unis sur l'Iran. Mais en fait, ça ne marche pas pour deux raisons. D'abord, parce que ça n'intéresse pas vraiment les Iraniens. Le problème des Iraniens, c'est pas d'acheter des médicaments ou des produits agricoles. Le problème des Iraniens, c'est de vendre leur pétrole, évidemment. Et pour l'instant, INSTEX ne compte pas acheter le pétrole iranien. Et puis, c'est encore très limité, parce que ça ne concernerait en fait qu'un certain nombre de petites entreprises, étant donné que les grandes entreprises, elles, ont décidé de quitter l'Iran et de n'avoir mais vraiment aucune relation économique avec les Iraniens, quand bien même les États-Unis autoriseraient des relations pour la pharmacie ou pour les produits agricoles. Mais il y a une telle peur qu'il y a de la surconformité, ce qu'on appelle l'overcompliance de la part de ces entreprises.
Mais donc c'est vrai que le dollar est un outil, une arme géopolitique, mais le contournement aussi, puisqu'en l'occurrence pour l'Allemagne, la France et ces pays européens, il s'agit aussi de sauver l'accord sur le nucléaire sans la participation des États-Unis. Ali Laïdi, en Russie, cette fois c'est pour se protéger aussi des sanctions américaines suite à l'annexion de la Crimée que le géant pétrolier Rosneft, par exemple, a annoncé la semaine dernière que ses exportations seraient désormais réalisées en euros et non plus en dollars. Mm-hmm. Pourquoi en euros? Pourquoi pas en yuan, par exemple?
Il y a des contrats qui vont se faire à terme entre la Chine et la Russie sur le pétrole, qui vont se faire à la fois en rouble et en yuan. Donc l'idée, on le voit bien, c'est de devenir plus indépendant par rapport au dollar, qui est hégémonique. Hein, je veux dire, 63% des réserves des banques centrales sont en dollars, 85% sur le marché d'échange, c'est du dollar. Donc il faut trouver une certaine indépendance vis-à-vis du dollar, et on va passer donc à la vitesse supérieure. C'est ce qu'on voit très clairement depuis un certain nombre d'années, entre la Russie, la Chine, l'Europe aussi, qui décide de ne plus utiliser le dollar. Rendez-vous compte qu'en Europe, on achète nos propres Airbus en dollars et non pas en euros. C'est quand même assez extraordinaire qu'on en soit arrivé là.
Quand vous demandez aux chefs d'entreprise pourquoi ils payent en dollars, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Alors, parce que une habitude. Le marché de l'aéronautique est un marché qui a été dollarisé dès le début, etc. Donc c'est des habitudes, et parce que le dollar est liquide, il est plus facile à utiliser et à faire circuler dans le monde entier.
C'est vrai que je vous ai demandé à Lilaïdi pourquoi la Russie ou Rosneft n'allait pas exporter en yuan, donc la monnaie, la devise chinoise, vous la dites beaucoup mieux que moi, parce que la Chine est une alliée de la Russie, mais enfin ça aurait été beaucoup plus peut-être sensé de vous demander pourquoi ils ne payent pas en rouble et pourquoi tous les pays qui veulent contourner la monnaie américaine ne payent pas tout simplement dans leur monnaie nationale.
Parce que le dollar est une valeur refuge, c'est une monnaie liquide que vous pouvez utiliser avec des coûts de transaction les plus bas possibles. Or, si vous utilisez votre propre monnaie, vous avez des coûts de transaction un peu plus élevés. Donc, l'objectif à atteindre, qui est un objectif annoncé par Bruno Le Maire en juillet dernier, c'est de rendre la zone euro, de plus en plus utiliser l'euro dans cette zone. Et c'est aussi un objectif de la part de la Commission européenne qui a été annoncée dès 2018, utiliser plus d'euros que de dollars.
D'ailleurs, un rapport de la Banque Centrale Européenne publié en juin nous apprenait que le rôle international de l'euro s'était renforcé, c'est-à-dire que ça part dans les réserves de change mondiales. C'est pour les mêmes raisons aussi, cette volatilité des monnaies et la stabilité du dollar qu'on voit, alors notamment dans plusieurs pays dont les populations se soulèvent contre leur gouvernement, mais sans voir de lien de cause à effet, on paye beaucoup en dollars. Au Liban, en Argentine, au Venezuela, mais aussi au Cambodge, dont nous parlions hier, sont des pays qui ne peuvent pas sortir du dollar ou qui ne veulent pas.
Ah si, ils aimeraient bien sortir du dollar, sauf que quand leur propre monnaie s'écroule, évidemment, dans les relations quotidiennes, lorsqu'on va acheter son café, son thé à l'épicerie et que votre monnaie s'écroule, eh bien évidemment, vous avez le dollar qui est une monnaie de refuge, à la fois pour le consommateur, mais aussi pour le producteur ou pour le vendeur. Donc là, au fait, c'est la liquidité du dollar, sa référence, son statut mondial qui fait qu'en effet, c'est privilégié dans ces pays-là.
Et le Chili, dont on a beaucoup parlé aussi, lui est sorti du dollar. Comment il a fait ? Pourquoi il a pu ?
Quand votre économie a d'énormes difficultés et s'écroule de plus en plus, vous n'avez plus d'alternative que d'utiliser ce que vous avez. Donc c'est de sortir du dollar parce que vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés internationaux et vous utilisez votre propre monnaie pour vous en sortir dans ces cas-là.
Bon, alors est-ce que ces décisions prises les unes après les autres contribuent à réellement fragiliser le dollar ? Est-ce que Donald Trump, en multipliant les sanctions et parfois des sanctions de 7 jours ou 8 jours, comme il l'a fait contre la Turquie récemment, contribue à fragiliser le dollar ?
Tout à fait. C'est les Américains qui s'en préoccupent de plus en plus. Ils voient bien que cette stratégie des sanctions fait que du coup, on pousse les autres partenaires des États-Unis à s'éloigner du dollar et à utiliser leur propre monnaie. C'est de plus en plus inquiétant et les débats montent aux États-Unis pour dire que sans doute, les Américains vont beaucoup trop loin dans ces sanctions.
Sauf que le poids du dollar dans les réserves des banques centrales s'élève à 62%. C'est le FMI qui le dit. Donc, il reste hégémonique pour l'instant.
Il le reste, mais la trajectoire, c'est qu'il va sans doute perdre cette hégémonie dans les décennies qui viennent.
Et quelle monnaie pourrait vraiment le concurrencer ?
À part une seule monnaie, ce sera un panier de monnaie, et évidemment dans lequel on trouvera l'euro, le yuan et le dollar toujours, évidemment.
Merci beaucoup Ali Laïdi d'avoir été avec nous ce matin. Le droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes, c'est votre dernier livre paru chez Actes Sud. Et je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Mesure pour mesure. Pour cette 7e édition, le festival fait dialoguer théâtre et musique sous toutes ses formes, du ciné-concert à l'installation sonore, en passant par l'opéra de poche. Durant un mois, découvrez 7 spectacles, dont 4 créations, parmi lesquelles Buster de Mathieu Bauer en novembre et le spectacle-événement Narcisse et Écho de David Marton en décembre. Mesure pour mesure, du 14 novembre au 19 décembre au Nouveau Théâtre de Montreuil. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h57, c'est votre humeur du jour Guillaume. Un étudiant s'est donc immolé, ça s'est passé en France.
Oui, ça s'est passé en France vendredi devant un bâtiment du Crous à Lyon. Un geste désespéré pour protester contre la précarité en milieu étudiant. Et l'on songe évidemment à un texte qui annonçait mai 68, un texte anonyme et probablement collectif intitulé « De la misère en milieu étudiant », un texte qui commence par une phrase célèbre que je vais vous lire. Julie, nous pouvons affirmer sans grand risque de nous tromper que l'étudiant en France est, après le policier et le prêtre, l'être le plus universellement méprisé. Si vous n'avez pas lu De la misère en milieu étudiant, vous pouvez aisément le faire parce que ce texte a été publié en étant libre de droit. Vous pouvez le reproduire sans quiconque et à demander une autorisation. Et vous trouverez sur le site de France Culture une excellente présentation de cet écrit et de sa genèse. Le texte est radical, très radical comme on savait l'être à l'époque. Il dépasse sur leur gauche les sociologues Bourdieu et Passeron, auteurs de l'une des Bibles de l'époque, les héritiers. Ceux-ci sont d'ailleurs rebaptisés Bourderon et Passedieu. Ils sont accusés d'être dupes, je cite, de l'éthique kantienne, autrement dit d'une démocratisation réelle par une rationalisation réelle du système d'enseignement. C'est comme ça qu'on écrivait à l'époque, autrement dit de prolonger l'enseignement du système. Alors on peut reprendre ou pas cette analyse. Ce qui est certain, c'est que le terrible geste de cet étudiant qui s'est immolé vendredi dernier montre que le désespoir en milieu étudiant est toujours d'actualité et ses causes ne sont peut-être pas si différentes de ce qu'elles étaient lorsque ce libelle de la misère en milieu étudiant donc a été écrit. Car au fond, qu'est-ce que mai 68 en milieu étudiant? Alors les explications de mai 68 sont multiples, mais l'une de celles qui me paraît pertinente est le télescopage entre le nombre d'étudiants peuplant les universités alors et l'avenir sombre qui les attend. Mai 68, ce n'est évidemment pas le chômage de masse encore, mais c'est déjà le déclassement. Depuis lors, la situation a empiré. Quiconque va dans une fac est frappé par la grande paupérisation du lieu, constat plus intense encore s'il a eu l'occasion d'aller dans une fac étrangère ou dans une grande école. La misère en milieu étudiant demeure le mépris pour les policiers et les prêtres, a probablement changé dans sa forme et ses justifications en 50 ans. Le mépris pour les étudiants, en revanche, lui, demeure dans ses causes comme dans ses effets.